Vous écoutez, on lit pour vous.
La recette d'une université verte. Un texte d'Éric-Pierre Champagne, paru le 3 juin 2024 dans la presse. En 20 ans, l'Université de Sherbrooke a réussi à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, GES, de 77 % malgré une croissance importante de son parc immobilier et de sa population étudiante. Gros plan sur la recette verte de cet établissement universitaire de l'Estrie. L'Université de Sherbrooke, c'est l'équivalent d'une ville d'environ 40 000 habitants, lance Denise Rémillard, vice-rectrice à l'administration et au développement durable de l'établissement. Une ville avec des rues, des bâtiments, des espaces de stationnement et un va-et-vient constant pendant une bonne partie de l'année. Même si une université n'est pas exactement une ville, l'Université de Sherbrooke, UdeS, a dû faire face à certains défis qui font l'objet de vifs débats dans plusieurs municipalités au Québec. C'est le cas notamment pour les enjeux touchant les transports et les espaces de stationnement sur le campus. En 20 ans, l'UdeS a vu sa population étudiante augmenter de 59 % tandis que le parc immobilier a connu une hausse de 52 %. Pendant la même période, l'établissement a réussi à conserver le même parc de stationnement sans ajouter de nouvelles cases, malgré la hausse appréciable de la communauté universitaire. Une stratégie qui n'a pas fait que des heureux, du moins au départ, reconnaît Patrice Cordeau, vice-recteur adjoint au développement durable. On a décidé d'augmenter les tarifs de stationnement, mais tout en offrant un rabais à nos employés pour le transport en commun et un accès presque gratuit pour les étudiants. On arrive, bon an mal an, à conserver le même nombre de places de stationnement, précise M. Cordeau. Devant le pavillon où se trouve le rectorat, Patrice Cordeau nous montre d'ailleurs un étang qui a été aménagé là où se trouvait auparavant un stationnement. Ça nous a aussi permis d'améliorer la biodiversité sur le campus et les gens peuvent profiter de ces espaces, ajoute-t-il. Chauffage et climatisation. Avec aujourd'hui 80 bâtiments répartis sur 3 sites, l'Université de Sherbrooke doit également jongler avec plusieurs défis pour chauffer et climatiser son parc immobilier. Si les nouvelles constructions sont conçues pour être carboneutres, entre autres grâce à la géothermie, le défi est différent pour les édifices moins récents. Au campus principal, le chauffage et la climatisation sont gérés à partir d'un centre opérationnel. Ici, rien ne se perd, rien ne se crée, lance l'opérateur Martin Côté, qui souligne que le système fonctionne notamment grâce à des boucles de chaleur. On récupère ainsi la chaleur excédentaire d'un endroit pour l'envoyer dans un autre bâtiment, tout ça grâce à un réseau de conduits qui fait en tout 3,5 km sous le campus. En 2003, les émissions liées à la consommation d'énergie totalisaient 15 594 tonnes en équivalent de CO2. Ces émissions ont fondu à 3 583 tonnes pour l'année 2022-2023. Denise Rémillard et Patrice Cordeau signalent qu'il est encore possible de réduire les émissions d'environ 10 % mais guère plus. Les émissions restantes sont compensées grâce à des achats de titres servant à financer des projets de réduction de GES. Éliminer toutes les émissions sans les compenser nécessiterait de les capter, avance Mme Rémillard. Dans notre comité carboneutralité, on a une équipe qui essaie d'imaginer des solutions pour la captation du carbone avec nos chercheurs. Selon Patrice Cordeau, l'Université de Sherbrooke est l'un des rares établissements universitaires dans le monde à être carboneutre. On est fiers de nos résultats. Les gens sont engagés, tant les étudiants que le personnel, ajoute Denise Rémillard. En janvier 2024, l'UdeS a d'ailleurs décroché la première place dans la catégorie des établissements universitaires au réputé classement international STARS, une norme qui évalue la performance des organisations en matière de développement durable. Avec cette première position, on a des demandes de partout dans le monde. On veut connaître notre recette, dit Patrice Cordeau. Et quels sont les ingrédients de cette recette? Madame Rémillard estime que la création d'un poste de vice-recteur au développement durable est un élément clé. Ça place ces considérations-là à l'agenda. C'est aussi toute la direction de l'université qui porte le développement durable, dont les objectifs font partie du plan stratégique, précise-t-elle. Le fait qu'on a commencé il y a 20 ans nous donne une longueur d'avance, reconnaît-elle, ce qui a permis de mieux gérer l'intégration des différents projets et leur acceptabilité sociale auprès de la communauté universitaire. La direction de l'Université de Sherbrooke n'a pas pour autant l'intention de dormir sur ses lauriers. Pour la vice-rectrice et son adjoint, des améliorations peuvent encore être apportées pour réduire le bilan carbone. On envisage déjà d'évaluer les pratiques du côté du numérique, gros consommateur d'énergie. Écrivez-nous pour nous partager vos idées vertes. En chiffres, 4055 tonnes de GES en 2022-2023, émission totale. Réduction de la consommation d'eau de 78% sur le campus principal depuis l'an 2000. Le parc solaire de l'université assure approximativement 15% de l'électricité consommée au campus principal à Sherbrooke. C'était « La recette d'une université verte », un texte d'Éric-Pierre Champagne, paru le 3 juin 2024 dans « La Presse ».
Aux quatre coins du cosmos, un texte de Mathieu Perrault, paru le 5 janvier 2025 dans La Presse. La vie sur une lune de Saturne, des anneaux autour de notre Terre, une exoplanète pratiquement voisine qui est habitable et a une atmosphère, les avancées de l'astronomie donnent le vertige. Voici quelques découvertes récentes fascinantes. Des nouvelles d'Ingenuity. L'épitaphe de l'hélicoptère martien de la NASA a été prononcée à la réunion annuelle de l'Union géophysique américaine, AGU, en décembre, à Washington. Malgré son écrasement à son 72e vol en janvier 2024, Ingenuity stockera des données météo et des images. Pendant 20 ans, a annoncé la NASA. Son partenaire, l'astromobile Perseverance, ne pourra relayer les données météo pendant très longtemps parce qu'il s'en éloigne, étant actuellement à 3 km d'Ingenuity, mais la NASA a toujours bon espoir de les récupérer. À l'origine, la mission ne prévoyait que 5 vols pour Ingenuity, qui était supervisée par l'ingénieure québécoise Farah Alibé. Une éclipse il y a 6000 ans. Il n'y a pas qu'en 2024 que les éclipses ont fasciné. Des astronomes indiens et japonais ont découvert qu'un texte sacré hindou, le Rig Veda, décrivait une éclipse qui s'est produite il y a plus de 6000 ans. Dans le Journal of Astronomical History and Heritage, à l'été 2024, ils décrivent comment une mention très claire d'une éclipse date de 4500 avant Jésus-Christ, puisqu'elle est survenue au moment où se produisait l'équinoxe du printemps, alors que la constellation d'Orion était visible de l'Inde. Comme l'axe de la Terre se déplace au fil des siècles, cette datation est relativement précise. Le record de la plus vieille éclipse remontait auparavant à 3200 ans dans un texte chinois. Les anneaux de la Terre. La Terre a eu pendant plusieurs dizaines de millions d'années des anneaux semblables à ceux de Saturne. Aucun humain n'a profité du spectacle, puisqu'il se déroulait il y a environ 450 millions d'années, soit bien avant notre avènement, et même bien avant celui des dinosaures. Ils auraient été responsables de l'un des pires refroidissements de notre planète. La découverte a été faite par des géologues australiens qui ont constaté que 21 cratères d'astéroïdes de cette époque étaient tous situés sur une même bande autour de notre planète. Ce bombardement a été l'un des plus intenses de l'histoire de la Terre. Les anneaux auraient été créés par la désintégration d'un astéroïde de faible cohésion à cause de la gravité de la Terre. L'étude a été publiée en septembre 2024 dans les Earth and Planetary Science Letters. Tache intrigante sur Encelade. Une tache noire apparue il y a 15 ans, puis rapidement disparue sur Encelade, l'une des 146 lunes de Saturne, a fait beaucoup jaser à la réunion annuelle de l'Union géophysique américaine, AGU, en décembre, à Washington. Sa couleur est difficile à interpréter, mais, combinée à la découverte de molécules complexes dans des jets de vapeur s'échappant de sa surface, elle laisse envisager la présence de vie sur Encelade, une lune glacée qui a probablement un océan souterrain. La brièveté des observations indique aussi que la quantité de vapeur est 10 à 100 fois plus importante que prévu, autre signe de la présence d'un océan abondant. Une atmosphère habitable. Le télescope spatial James Webb, lancé en 2021 et en orbite au-delà de la Lune, a permis à des astronautes de l'Université de Montréal de découvrir pour la première fois qu'une exoplanète est habitable et a une atmosphère. LHS 1140b, située à 48 années-lumière, est recouverte soit de glace, soit d'un océan, et a une taille correspondant à quelquefois celle de la Terre. La découverte a été décrite en janvier 2024 dans les Astrophysical Journal Letters. Les promesses de la voile solaire. La NASA a déployé l'été dernier la plus grande voile solaire jamais testée, qui fait 80 mètres carrés. Lancée en avril 2024, la mission ACS-3 vise à tester la possibilité de voyages interstellaires. Une voile solaire propulsée au départ par un laser terrestre, puis par les photons du Soleil, pourrait atteindre le système solaire le plus proche, Alpha du Centaure, en un demi-siècle. Deux seuls autres tests de voile solaire en 2010 et 2019 ont eu lieu. Les voiles solaires pourraient aussi être utilisées pour l'exploitation minière spatiale et pour la défense contre les astéroïdes. C'était « Aux quatre coins du cosmos », un texte de Mathieu Perrault, paru le 5 janvier 2025 dans la presse.
Comment sont cultivées les canneberges au Québec? Un texte de Pauline Gravel, paru le 21 décembre 2024 dans Le Devoir. Pour nombre de Québécois, tradition oblige, la dinde de Noël est inévitablement accompagnée de confitures de canneberge. Ces petits fruits utilisés pour concocter cette sauce unique pourraient fort bien être issus du Québec, deuxième producteur mondial et premier en culture biologique. Or, cette grande productivité résulte de multiples innovations issues de la recherche qui ont été apportées aux méthodes de culture de ce fruit indigène de l'Amérique du Nord. Les premières cultures commerciales de canneberge ont débuté au New Jersey, il y a près de 200 ans. Au Québec, la première cannebergière a vu le jour dans les années 1930. mais ce n'est que depuis le début des années 2000 que la production de ces baies rouges, aussi appelées atoka, a connu une croissance exponentielle. En moins de 20 ans, les superficies cultivées ont plus que quadruplé, et ce grâce à la transformation des modes de culture qui sont aujourd'hui très différents des pratiques ancestrales, affirme Didier Labarre, directeur général et scientifique du Centre de recherche et d'innovation sur la canneberge, CRIC. La canneberge d'Amérique du Nord, de son nom scientifique Vaccinium macrocarpon, est une plante qui pousse à l'état naturel en tourbière, donc dans un milieu acide, saturé en eau et comprenant une bonne couche de matière organique. Les toutes premières cannebergières du Québec ont un peu imité ces conditions qui étaient celles du mode de production prédominant aux États-Unis. Mais très rapidement, on s'est rendu compte que dans le cadre de projets de recherche menés ici au Québec, qu'on avait une bien meilleure productivité dans un sol sablonneux avec un relativement bon drainage, même si en milieu naturel, la canneberge se retrouve dans un sol saturé en eau. Ce n'est pas une plante qui aime l'eau, explique M. Labarre. Tordeuse de la canneberge. Dans un souci de pratiquer une agriculture plus durable, les scientifiques ont expérimenté, ces dernières années, des méthodes plus écologiques que les pesticides de synthèse pour lutter contre les insectes ravageurs, dont le principal est la tordeuse de la canneberge. Une première méthode consiste à inonder les champs pendant 48 heures afin de noyer les insectes ravageurs. On retire ensuite l'eau qu'on récupère dans des bassins de rétention. Dans le cadre d'un projet de recherche mené par le Laboratoire de lutte biologique de l'UQAM, M. Labarre et ses collègues ont pu déterminer le moment précis du cycle de la tordeuse où il est préférable d'effectuer l'inondation. Ils ont noté que les petites larves arrivent à survivre 48 heures sous l'eau. Elles sont moins sensibles à cette manœuvre, probablement parce que leur besoin en oxygène est moins élevé, avance-t-il. Les très grosses larves, quant à elles, flottent et arrivent à survivre en s'échappant. On cible donc les stades intermédiaires L2, L3 et L4 sur 5 stades larvaires, durant lesquels les larves ont une plus grande consommation d'oxygène et ne sont pas encore capables de flotter et, ainsi, de survivre, explique-t-il. Les chercheurs ont également observé que plus l'eau est chaude, moins le taux d'oxygène dissous qu'elle contient est élevé et plus l'efficacité du traitement est grande pour noyer les larves. Compte tenu de la bonne efficacité de cette méthode de lutte physique, les chercheurs ont réussi à convaincre de 80 % à 90 % des producteurs de l'employer en 2023 et 100 % des producteurs bio, affirme M. Labarre. Confusion sexuelle. La deuxième méthode étudiée pour lutter contre les insectes ravageurs est la confusion sexuelle. L'idée consiste à saturer l'environnement de phéromones sexuelles normalement émises par la femelle. Les phéromones sexuelles sont des messagers chimiques qui sont utilisés par les femelles pour attirer les mâles. C'est par ce moyen que les mâles repèrent les femelles pour s'accoupler. Si on inonde l'environnement de ce messager chimique, les mâles n'arriveront pas à trouver une femelle, ou cela leur prendra beaucoup plus de temps. C'est un peu comme lorsqu'on prépare un gâteau. On ne va peut-être pas être en mesure de retrouver où est le gâteau, parce que ça sent le gâteau partout dans la maison, donne en exemple le chercheur. Par conséquent, si les mâles ne trouvent pas de femelle, il n'y aura pas d'accouplement. Et ces dernières ne pondront pas d'œufs. Si l'accouplement est retardé parce que le mâle a mis trop de temps pour trouver une femelle, il a été montré dans le cas de la tordeuse des canneberges que cela diminue la fécondité des insectes. Donc, dans les deux situations, il y a un effet positif parce qu'il y aura moins de larves dans la génération suivante, fait-il remarquer. Les chercheurs ont également testé différents moyens pour diffuser les phéromones. Il nous a fallu trouver une matrice dans laquelle on introduit les messagers chimiques, qui sont des molécules volatiles et qui les relâche graduellement pour qu'il y ait toujours une petite concentration de phéromones dans l'environnement pour qu'en tout temps, le mâle n'arrive pas à retrouver la femelle, explique l'entomologiste. Le diffuseur sur lequel les chercheurs concentrent leurs efforts en ce moment se présente sous forme de microcapsules qui sont produites par la compagnie américaine Tressé, qui a développé une formulation biologique qui est acceptée par les certificateurs bio. Vous écoutez « Comment sont cultivées les canneberges au Québec ?» un texte de Pauline Gravel paru le 21 décembre 2024 dans Le Devoir. Mélangées avec de l'eau, ces microcapsules sont répandues sur les cultures à l'aide d'un pulvérisateur, un peu comme pour un insecticide conventionnel. On les applique durant les deux périodes d'accouplement de la tordeuse des canneberges, soit vers la fin de juin et le début de juillet, puis au mois d'août. Une fois pulvérisées, les microcapsules vont se défaire tranquillement sous l'effet du soleil, de la chaleur et de l'eau, et les phéromones diffuseront pendant tout ce temps-là, fait savoir M. Labarre, qui précise qu'en 2022, cette façon de faire a eu d'excellents résultats. On a vraiment réussi à diminuer la taille des populations de larves. On a ainsi pu diminuer les dommages causés par les ravageurs. Notre but est d'arriver avec des solutions qui sont relativement faciles à appliquer par les producteurs et qui sont économiquement compétitives avec ce qui est disponible sur le marché. M. Labarre espère qu'au terme de son projet de recherche, la compagnie Tressé fera homologuer ses microcapsules au Canada afin que tous les producteurs de canneberges puissent les utiliser, car elle a développé une formulation biologique qui est acceptée par les certificateurs bio. Nous travaillons toujours pour développer des outils qui pourront être acceptés en bio. Ah, si c'est accepté en bio, cela veut dire qu'un producteur conventionnel pourrait l'utiliser aussi, souligne-t-il. Le chercheur projette également de combiner l'inondation printanière et l'application de phéromones dans l'espoir de réduire encore plus l'usage des insecticides, y compris ceux autorisés en culture biologique, qui comportent aussi certains risques pour la santé et l'environnement. Ce n'est pas parce qu'un produit est extrait naturellement qu'il n'y a aucun risque. C'est certain que si on peut remplacer leur utilisation par des méthodes de lutte physique, l'inondation printanière, et des méthodes de lutte biologique qui ne font pas appel du tout à des pesticides, ce serait encore mieux, souligne-t-il. Mais les phéromones ne sont-elles pas des substances toxiques pour l'environnement, elles aussi? La classe de phéromones avec laquelle nous travaillons, qu'on appelle « straight chain lepidopteran pheromone », a fait l'objet d'une batterie de tests menée par le département de l'agriculture des États-Unis, USDA, qui a trouvé que les risques sont excessivement faibles pour la santé humaine et que sur le plan environnemental, leur effet est très spécifique, dans la mesure où chaque espèce d'insecte émet ses propres phéromones. Si on vise à perturber l'accouplement de la tordeuse des canneberges, les autres papillons, comme le monarque, par exemple, ne seront pas affectés parce que ce n'est pas le message chimique qu'ils reconnaissent. Ce qui n'est pas le cas avec les insecticides biologiques, qui sont à large spectre et donc toxiques pour tous les insectes, peu importe lesquels, répond M. Labarre. Canneberge bio. Au Québec, alors que la production en mode conventionnel ne cesse de croître, la culture des canneberges bio est en déclin depuis la pandémie. En 2024, 17,5% des superficies dédiées à la culture de la canneberge étaient cultivées en régie bio, comparativement à 21,5% l'an passé, annonçait l'Association des producteurs de canneberges du Québec, APCQ, en novembre dernier. Cela n'empêche toutefois pas le Québec d'être le plus important producteur de canneberges bio au monde. La lutte contre les ravageurs est l'une des causes du recul des superficies cultivées en régie biologique, a indiqué le président de l'APCQ, Vincent Godin. Les insecticides utilisés pour le bio sont plus chers et souvent moins efficaces que les insecticides de synthèse, fait remarquer Didier Labarre, directeur général et scientifique du Centre de recherche et d'innovation sur la canneberge. Les produits utilisés pour le bio doivent être d'origine naturelle. Pour la canneberge, on a fait appel à un extrait de plante ainsi qu'à une molécule produite par une bactérie. Ces deux produits sont homologués et acceptés pour la culture bio, mais ils sont relativement chers et ils ont une efficacité limitée par rapport aux pesticides de synthèse. Les cannebergières du Québec. Près de 80 % des cannebergières du Québec sont situées dans la région du centre du Québec, principalement dans les municipalités régionales de comté MRC de l'Érable et d'Arthabasca, et quelques-unes dans les MRC de Bécancourt et de Drummond. Près de 8 % se trouvent dans la région de Lanaudière, 5 % au Saguenay-Lac-Saint-Jean et deux d'entre elles sur la Côte-Nord. Les champs sont rectangulaires d'une largeur d'environ 48 mètres et délimités par des chemins sur lesquels circule la machinerie. Étant donné que la canneberge court sur le sol et couvre ainsi toute la surface du champ, on ne peut donc rouler qu'en périphérie des champs. Une machinerie particulière adaptée à cette architecture de culture a été développée au Québec en collaboration avec les producteurs, précise Didier Labarre du CRIC. Cette machinerie se compose de rampes qui couvrent la largeur des champs. Ces rampes servent à répandre les fertilisants, principalement de l'azote en petite quantité, et à pulvériser des pesticides. Les champs se trouvent dans des bassins que l'on inonde au moment de la récolte. On décroche les fruits des plants et, une fois détachés, ces petites boules rouges flottent à la surface de l'eau en raison des petites alvéoles vides qu'elles contiennent. Il est alors très facile de les ramasser. Les cannebergières sont munies de systèmes de gestion de l'eau en circuit fermé, c'est-à-dire que chaque ferme a son propre bassin de rétention d'eau, ce qui permet de récupérer l'eau après chaque inondation pour la réutiliser tout au long de la saison. Près de 99 % du temps, les canneberges ne sont donc pas dans l'eau. Elles le sont uniquement lors de la pratique de l'inondation printanière qui dure 48 heures, lorsque les larves atteignent leur phase intermédiaire, ainsi que lors de la récolte pour une journée ou deux, précise M. Labarre. C'était « Comment sont cultivées les canneberges au Québec? » un texte de Pauline Gravel paru le 21 décembre 2024 dans Le Devoir.